Chapitre 2. Les explications de Théodore Béchou. Raoul Davenac bondit hors de son lit et empoigna Béchou à la gorge en proférant « J'avais ordonné qu'on me laissât tranquille et tu as le culot de me réveiller. Mais non, je te regardais dormir et je ne te reconnaissais pas. Tu es plus brun, d'un rouge foncé. Tu as l'air d'un type du midi. » Depuis quelques jours, en effet. Quand on est de vieille noblesse périgourdine, on se doit d'avoir un teint de vieille brique. » Ils se prirent les mains affectueusement, charmés de se revoir. Ils avaient fait de si beaux coups ensemble. Que de formidables aventures. Hein ? Souviens-toi ? Souviens-toi du temps où je m'appelais Jim Barnett et où je dirigeais une agence de renseignement. Et souviens-toi du jour où je t'ai barboté tout ton paquet de titres au porteur. Souviens-toi de mon voyage de noces avec ta femme. À propos, comment va-t-elle? Vous êtes toujours divorcé? Et toujours? Ah, ah, la belle époque. Ah, ah, la belle époque. Et l'histoire de la demeure mystérieuse, tu t'en souviens?
Si je m'en souviens. Et l'histoire des diamants escamotés sous ton nez?
Il n'y a pas 2 ans de cela. Mais comment m'as-tu retrouvé? Comment as-tu su que j'étais Raoul Davenac?
Le hasard. Une dénonciation d'un de tes complices qui est parvenu à la préfecture et que j'ai intercepté.
Davenac l'embrassa dans un élan spontané. Tu es un frère, Théodore Béchou.
Et je te permets de m'appeler Raoul. Oui. Un frère. Ah, je te revaudrai ça. Ah tiens, je n'attendrai pas une seconde de plus pour te rendre les 3000 francs qui se trouvaient dans la poche secrète de ton portefeuille. Ce fut le tour de Béchou de saisir son ami à la gorge. Il était hors de lui.
Mais voleur, escroc ! Mais tu es monté dans ma chambre cette nuit ? T'as vidé mon portefeuille ? Mais tu es donc indécrottable !
Et que veux-tu, vieille branche ? On ne dort pas la fenêtre ouverte. J'ai voulu te faire voir le danger, et j'ai pris ça sous ton oreiller. Avoue que c'est drôle.
Béchou l'avoua, gagné tout à coup par la gaieté de Raoul. Et comme Raoul, il se mit à rire, avec colère tout d'abord, puis naturellement, et sans arrière-pensée.
Sacré Lupin, hein. Ah, tu seras toujours le même. Mais pas sérieux pour 2 sous. Ah, oh, mais tu n'as pas honte à ton âge.
Dénonce-moi.
Ouais, pas possible. Tu t'échapperais encore. On peut vraiment rien contre toi. Et puis, ce serait dégoûtant de ma part. Non, tu m'as rendu trop de services.
Et je t'en rendrai encore.
Tu vois, il a suffi de ton appel pour que je vienne reposer dans ton lit et boulotter ton petit déjeuner.
De fait, une voisine qui faisait le ménage de Béchou venait d'apporter du café, du pain et du beurre. Et Raoul se faisait de confortables tartines et vidait la tasse. Ensuite, il se rasa, se lava dehors à même un baquet d'eau froide et, restauré, ragaillardi, lança dans l'estomac de Béchou un vigoureux coup de poing.
« Vas-y de ton discours, Théodore. Sois bref et méticuleux, éloquent et sec, tumultueux et méthodique. N'oublie pas un seul détail et... n'en donne pas un de trop. Mais d'abord, que je te regarde. »
Il le saisit aux épaules et l'examina.
Toujours le même. Tu n'as pas changé. Des bras trop longs, une figure à la fois bonasse et revêche, l'air prétentieux et dégoûté, une élégance de garçon de café.
En vrai, tu as de l'allure.
Hein. Et maintenant, Jaspine. Je ne t'interromprai pas une fois.
Béchou réfléchit et commença.
La demeure voisine, un mot. À quel titre es-tu mêlé à cette affaire?
Comme brigadier de la sûreté?
Non, comme familier de la maison depuis 2 mois. C'est-à-dire depuis le mois d'avril où je suis venu à Radicatel en convalescence, après une double pneumonie qui a failli... Aucun intérêt. Continue, je ne t'interroge plus. Je disais donc que le domaine de la Bariva...
Drôle de nom.
A le même nom que celui de cette petite chapelle juchée sur la côte, près de Côtebec et où va la barre, c'est-à-dire le flot, le mascaré qui remonte la Seine deux fois par jour et surtout à l'équinoxe. La Bariva, ou plutôt, elle monte jusqu'à cet endroit malgré la hauteur. C'est bien ça, hein ?
Oui, mais ici, ce n'est pas à proprement parler la Seine qui remonte jusqu'au village. C'est la rivière que tu as peut-être remarqué, l'Aurel, laquelle va se jeter dans la Seine et laquelle rebrousse chemin et déborde aux heures de marée avec plus ou moins de violence.
Oh Dieu, que tu es long.
Et donc, hier, sur le coup de midi, on vint me chercher du manoir.
Quel manoir ?
Celui de la Bariva.
Ah, il y a un manoir.
Évidemment, un petit château où habitent deux sœurs.
De quelle congrégation ?
Hein ?
Évidemment, tu parles de sœurs. Est-ce des petites sœurs des pauvres ? Des visitandines ? Explique-toi.
Ah, zut ! Impossible de rien expliquer.
Eh bien, veux-tu que je te la raconte, ton histoire, moi ? Tu m'arrêteras si je me trompe.
Mais je ne me trompe jamais. C'est un principe.
Écoute, le manoir de la Bariva, qui faisait partie autrefois de la seigneurie de Basme, a été acheté au milieu du XIXe siècle par un armateur du Havre. Son fils, Michel Montessieu, y fut élevé et s'y maria. Il perdit coup sur coup sa femme et sa fille et resta seul avec deux petites filles, Bertrande et Catherine, les sœurs actuelles. Désemparé, il s'installa à Paris, mais continua cependant de venir deux fois par an, durant un mois, aux environs de Pâques, et un mois à l'occasion de la chasse. L'aînée de ses petites filles, Bertrande, épousa de bonne heure un monsieur Guersin, industriel à Paris, ayant de grosses affaires en Amérique. Nous sommes d'accord ?
D'accord.
La petite Catherine vivait donc avec Michel Montessieu et un domestique encore jeune, Arnold, très dévoué à son maître, Monsieur Arnold, comme on l'appelait. Elle s'éleva et s'instruisit tant bien que mal, libre de toute entrave, un peu fantasque, exubérante et rêveuse, passionnée d'exercice et de lecture, ne se plaisant qu'à la Bariva, se jetant à la nage dans l'eau glacée de l'Aurel pour se sécher dans l'herbe, les jambes en l'air, contre un vieux pommier. Son grand-père l'aimait beaucoup, mais, bizarre, taciturne, ne s'occupait que de sciences occultes, de chimie, et même d'alchimie, disait-on. Tu me suis bien.
Parbleu.
Or, il y a 20 mois, à la fin de septembre, le soir du jour où ils avaient quitté la Normandie après leur séjour ordinaire, le grand-père Montessieu mourut subitement dans son appartement de Paris. L'aînée, Bertrande, se trouvait à Bordeaux avec son mari. Elle revint précipitamment et les deux sœurs vécurent ensemble. Le grand-père avait laissé moins de fortune qu'on ne croyait et aucun testament. Quant au domaine de la Bariva, on l'abandonna. Les grilles et les portails du manoir étaient fermés à clé. Personne n'y pénétra plus.
Personne.
C'est cette année seulement que les deux sœurs résolurent d'y passer l'été. Monsieur Guersin, le mari de Bertrande, revenu en France, puis reparti, puis revenu, devait les rejoindre. Elles emmenèrent Monsieur Arnold et une femme de chambre cuisinière, qui était au service de Bertrande depuis plusieurs années. Au village, elles engagèrent provisoirement deux fillettes du pays, et tout le monde se mit à travailler pour mettre le manoir en ordre et nettoyer le jardin, qui était devenu un véritable paradis.
Voilà, mon vieux, nous sommes toujours d'accord.
Béchou avait écouté Raoul d'un air stupide. Il reconnaissait la substance même des renseignements recueillis par lui à ce propos et résumés par lui sur un cahier qu'il avait glissé dans un placard de sa chambre parmi des liasses de vieux dossiers. Au cours de sa visite nocturne, Raoul d'Avenac avait donc eu le temps de découvrir et de lire ces pages ?
Nous sommes d'accord,
bredouilla Béchou qui n'eut pas la force de protester. En ce cas, achève. Ton cahier secret ne souffle pas un mot de la journée d'hier. disparition de Catherine Montessieu, assassinat de je ne sais pas qui, achève, mon vieux. Eh ben, voilà, voilà. Et tous ces événements tragiques se sont déroulés en quelques heures, hier. Mais il faut d'abord que tu saches que le sieur Guersin, le mari de Bertrande, était revenu la veille. Oh, un type de bon vivant que ce Guersin. Un homme d'affaires, bien d'aplomb, solide, éclatant de santé. La soirée à laquelle j'assistais avait été fort gaie. Et Catherine elle-même, malgré son humeur noire et certains incidents plus ou moins graves qui l'ont bouleversée depuis quelque temps, Catherine elle-même avait ri de bon cœur. Et je rentrais me coucher vers 10h30. La nuit, rien. Aucun bruit suspect. Et c'est le matin seulement, sur le coup de midi, que Charlotte, la camériste de Bertrand Guersin, se précipita chez moi en criant « Mademoiselle a disparu, elle a dû se noyer dans la rivière !» Supposition peu vraisemblable, Théodore. Tu m'as parlé d'elle comme d'une nageuse accomplie. Bah, sait-on à jamais ? Une défaillance, quelque chose qui vous accroche. Et toujours est-il que, en arrivant au manoir, je trouvais sa sœur affolée, son beau-frère et le domestique Arnold tout agités, et que l'on montra au bout du parc, entre deux rochers où elle a l'habitude de descendre dans l'eau, son peignoir de bain. Bah, ça ne prouve pas. Mais ça prouve tout de même quelque chose. Et puis, je te l'ai dit, depuis plusieurs semaines, elle était absorbée, anxieuse. Et alors, inévitablement, l'idée nous est venue...
Qu'elle se serait tuée ?
C'est du moins ce que redoute sa pauvre sœur.
Elle aurait donc eu un motif pour se tuer ?
Et peut-être. Elle était fiancée. Et son mariage...
Hein ? Quoi, fiancée ? Elle aime quelqu'un ?
Oui, un jeune homme qu'elle a connu cet hiver à Paris... Et c'est la raison pour laquelle les deux sœurs sont venues s'ensevelir au manoir. Le comte Pierre de Basme habite avec sa mère le château de Basme, dont dépendait jadis le manoir, et qui est situé sur le plateau. Tiens, on l'aperçoit d'ici.
Et il y a des obstacles au mariage ?
La mère ne veut pas que son fils épouse une jeune fille qui n'a ni fortune ni titre. Hier matin, une lettre de Pierre de Basme fut apportée à Catherine. Dans cette lettre, que nous avons retrouvée par la suite, il annonçait son départ immédiat. 6 mois de voyage que sa mère exigeait. Il s'en allait désespéré, disait-il, et suppliait Catherine de ne pas l'oublier et d'attendre. Une heure après, c'est-à-dire à 10h, Catherine s'éloignait. On ne l'a plus revue.
Elle est peut-être sortie sans qu'on le sache.
Impossible.
Donc... Tu crois au suicide ?
Pour moi, non. Je crois au meurtre.
Diable ! Et pourquoi ?
Et parce que, au cours des recherches que nous avons effectuées, nous avons eu la preuve matérielle visible qu'il y avait, et qu'il y a peut-être encore, dans le parc, c'est-à-dire dans l'enclos qui borde les murs, un bandit qui rôde et qui tue.
Vous l'avez vu ?
Non. Mais il a agi une seconde fois.
Il a tué ?
Eh oui, il a tué. Et comme je te l'ai téléphoné hier, il a tué. Hier, sous le coup de 3 heures, sous mes yeux, M. Guersin a longé la rivière et traversé le vieux pont vermoulu.
Halte !
Comment, halte ? Mais je commence.
Arrête-toi.
Absurde ! C'est tout le drame que je vais te raconter, et un drame sur lequel nous avons une certitude des faits. Si tu refuses de connaître ces faits, comment veux-tu ?
Je ne refuse pas de les connaître, mais je refuse d'en entendre 2 fois le récit. Or, comme tu les exposeras tout à l'heure à ces messieurs du parquet, lesquels ne sauraient tarder à venir, il est tout à fait inutile que tu t'épuises à me dire ce que tu diras sur place et avec commentaires.
Mais cependant...
Ah non, mon vieux, il émane de toi, quand tu racontes une histoire, un ennui incommensurable. Laisse-moi respirer.
Alors,
fais-moi visiter le parc. Et surtout, pas un mot durant cette visite.
Tu as un grand tort, vois-tu, Béchaud. Tu es trop bavard.
Prends exemple sur ton vieil ami Lupin, toujours si discret, réservé dans ses propos, et qui ne jacasse pas à tort et à travers comme une pie. On ne réfléchit bien que quand on se tait, et qu'on se trouve en face de ses pensées, sans être importuné par des considérations oiseuses d'un hurluberlu qui enfile les mots les uns aux autres comme des grains de chapelet. Béchou songea bien que ce discours s'adressait à lui, et qu'il était l'hurluberlu qui jacassait comme une pie. Cependant, comme il s'en allait bras dessus, bras dessous, en vieux camarades qu'unissent une solide amitié et une naturelle estime, il demanda la permission de poser une question dernière, une seule question. Pose. Et tu répondras sérieusement.
Oui.
Eh ben, en bloc, quel est ton avis sur ce double mystère?
C'est qu'il n'est pas double.
Mais si, il y en a deux. D'abord, la disparition de Catherine, et ensuite, l'assassinat de M. Guersin.
Ah, c'est donc M. Guersin qui a été assassiné?
Eh oui.
Oh, eh bien, ça fait un mystère. Où est l'autre?
Je te le répète, la disparition de Catherine.
Catherine n'a pas disparu.
Et où serait-elle?
Dans sa chambre, en train de dormir. Béchou regarda de côté son vieil ami et soupira.
Décidément, ce garçon ne serait jamais sérieux.
À ce moment, comme ils approchaient des grilles, ils aperçurent une grande femme brune qui, ne pouvant sortir du domaine que gardait un gendarme planté près de la grille, leur faisait signe de se hâter. Béchou s'inquiéta aussitôt.
Oh, hey, c'est la femme de chambre de Bertrand de Guersin, exactement comme hier, quand elle est venue m'annoncer la disparition de Catherine. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, Charlotte, qu'est-ce qu'il y a? Rien de nouveau, j'espère.
Mademoiselle Catherine, c'est madame qui m'envoie vous prévenir.
Et parlez donc. Un malheur, hein?
Au contraire, mademoiselle est rentrée cette nuit.
Elle est rentrée cette nuit?
Eh oui, madame priait au chevet de monsieur quand elle a vu mademoiselle qui arrivait près d'elle en pleurant. Elle était à bout de force. On a dû la coucher et la soigner.
Et actuellement?
Et mademoiselle est dans sa chambre et dort.
Crébleu, 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 crébleu! Elle est dans sa chambre et elle dort, crébleu!
Et que t'avais-je annoncé?
Quand donc admettras-tu une fois pour toutes que j'ai toujours raison?
Crébleu de crébleu!
Répétait Béchou qui ne trouvait pas d'autres mots pour exprimer sa stupeur et son admiration.